Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, tous contre le silence.
Oui, j'avais 8 ans et j'habitais à New York. Je me souviens des gens qui pleuraient dans la rue, plantés devant les magasins de télévision, incapables d'y croire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je croyais alors que le monde était devenu fou et que rien ne pouvait aller plus mal. Ce témoignage, à l'instar de milliers d'autres publiés sur les réseaux sociaux américains, le prouve 50 ans plus tard. Le traumatisme affleure toujours et encore. Et pourtant, note pour sa part l'écrivain Tony Norman dans la Gazette de Pittsburgh, on l'a oublié. Mais lorsqu'il a été assassiné dans cet hôtel de Memphis où il était venu soutenir la grève d'employés au nettoyage, payé 1 $ de l'heure, Martin Luther King battait des records d'impopularité. La bonne société, à la fois blanche et libérale, regrettait sa critique du capitalisme aussi féroce que celle du racisme. Quoi qu'il en soit, ressusciter le passé se fait sous les yeux du présent et ce que l'on retient d'hier, note le temps, porte désormais la marque d'aujourd'hui. Les droits des travailleurs, la ségrégation persistante, la pauvreté. Un demi-siècle plus tard, écrit The New York Times, tous ces combats lui ont survécu, nous en avons tous hérité. Quand le journal local de Fayetteville, en Caroline du Nord, The Observer, juge ce matin que ressusciter la mémoire de Martin Luther King n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui, The Washington Post le reconnaît, son rêve est encore à venir. Et s'il fallait encore se convaincre que Martin Luther King vit encore parmi nous, écrit pour sa part The Hill, il suffit de citer tous ceux qui aux États-Unis poursuivent sa longue marche vers plus de justice, qu'il s'agisse de ces millions de femmes, d'étudiants ou de noirs qui défilent sans cesse à travers l'Amérique, aspirant à devenir la prochaine génération qui n'endossera plus le rôle de victime. À ce titre d'ailleurs, un nouveau mouvement est en train de s'étendre comme un véritable feu de forêt, note The New York Times. Après la Virginie occidentale, début mars, des milliers de professeurs sont sortis dans les rues dans l'Oklahoma et le Kentucky cette semaine pour protester contre le gel de leurs salaires et les coupes budgétaires dans l'éducation. Quand The Washington Post titre « La rébellion s'intensifie », le site de la chaîne américaine CNN s'interroge « Quelle sera la prochaine étape ?» Réponse du quotidien New York, l'Arizona pourrait bien être le prochain état concerné par cette grogne du corps enseignant. Alors jusqu'à présent, toutes ces manifestations avaient pris les politiciens locaux par surprise. Il faut dire que dans ces États solidement républicains, les employés du service public ne sont pas autorisés à faire grève. Et c'est la raison pour laquelle les syndicats préfèrent parler aujourd'hui de débrayage. Toujours dans les colonnes du New York Times, un professeur de musique en école primaire lance « Nous avons longtemps eu une mentalité de martyr. Désormais, ce n'est plus le cas. »
Et d'une grève à l'autre, direction à présent la France qui, à en croire la presse, serait menacée par le chaos.
Oui, c'est à en croire qu'ils se sont tous passer le mot de USA Today à Die Tageszeitung, en passant par Al Jazeera, tous décrivent une situation confuse proche du chaos. De son côté, l'hebdomadaire britannique The Economist semble déceler un paradoxe chez les Français vis-à-vis de ce mouvement social, puisque l'opinion semble à la fois soutenir les grévistes et en même temps approuver les réformes économiques. Le quotidien espagnol El Mundo résume lui ce conflit social, un match entre le président français et le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, le moustachu espagnol qui veut, dit-il, enflammer la France contre Macron. The Los Angeles Times précise pour sa part que cette grève des cheminots est à rapprocher de celle du personnel d'Air France, partiellement détenu par l'État, mais aussi de celle des éboueurs municipaux dans plusieurs villes, dont Paris, ou bien encore des manifestations d'étudiants opposés aux réformes de l'éducation. Autant de mouvements qui s'ajoutent donc au malheur de Macron. Enfin, le magazine new-yorkais Jacobin, lui, note qu'il est encore trop tôt pour prédire si ces diverses protestations s'uniront en un mouvement unifié. Force est de constater que pour l'heure, elles restent largement isolées les unes des autres. Est-ce que le potentiel de ce que les militants de gauche français appellent une convergence des luttes devient désormais, dit-il, de plus en plus difficile à ignorer.
La colère toujours et encore au Portugal cette fois-ci.
Oui, pourquoi ? Parce qu'entre 2007 et 2017, le soutien de l'État aux banques a dépassé les 17 milliards d'euros, soit 1708 milliards par an réglés par les contribuables, précise le quotidien gratuit Destaque. Une véritable décennie noire, résume de son côté le courrier de Mana, repéré par le Courrier International, le journal le plus lu du pays, qui précise que ces opérations de renflouement des banques ont pesé 23,7 milliards d'euros dans la dette publique, l'équivalent de 12% du PIB, selon les données divulguées cette semaine par la Banque du Portugal, ce qui représente pas moins de 2300 euros pour chaque Portugais.
Et on termine par la Suisse désormais. où une campagne citoyenne contre la surveillance des assurés est en train de prendre de l'ampleur.
Oui, ce mouvement, précise Le Temps, est parti au départ d'un élan de colère sur Twitter et il finira peut-être en référendum populaire. Un petit groupe de citoyens s'est en effet mis en tête de s'opposer à la révision du droit des assurances sociales. Dans leur viseur, les nouvelles dispositions validées par le Parlement mi-mars qui permettent aux assureurs de surveiller leurs clients en cas de soupçon de fraude. Les compagnies pourront désormais engager des détectives, recourir à des enregistrements sonores ou visuels ou utiliser des drones pour la géolocalisation. Alors toutes ces mesures ont donné lieu à un débat houleux au Parlement entre la gauche et la droite qui aurait pu retomber dans l'oubli, mais c'était sans compter l'action citoyenne lancée sur la plateforme WeCollect il y a une semaine. Objectif, récolter suffisamment de promesses de signatures pour envisager le lancement d'un référendum, et ce même si cette initiative aurait sans doute peu de chance face à une droite unie en faveur de cette loi. Mais après tout, et comme en toute circonstance, le pire ce ne sont pas tant les actes et les paroles des méchants, mais bien le silence des justes.
Merci Thomas Cluzel.